RMC, 13h-14h, Motors, Louis Amar, Jean Lecroix.
Bonjour à tous, Motors en direct, on est ensemble jusqu'à 14h. Salut Jean Lecroix.
Et salut Louis, bonjour à tous.
À la une ce dimanche, la F1, premiers essais dans 8 jours à Barcelone. Pour en parler, nous serons avec le patron français d'une écurie mythique, Fred Vasseur, l'homme fort d'Alfa Romeo, sera notre invité dans quelques instants. Autre saison sur le point de démarrer, celle de MotoGP, l'ancien pilote Jean-Claude Augrel sera avec nous pour analyser les premiers tours de piste à Sepang en Malaisie. Et puis à 13h45, Radio Paddock pour tout savoir de cette semaine de sport mécanique. Vous écoutez RMC, vous regardez RMC Sport News, bienvenue dans Motors. Juste avant la F1, détour par la Suède. Heureux les championnats du monde de ski alpin. La descente d'âme est en cours. Salut Morgane Maury.
Et salut les champions du dérapage en courbe. On laisse Sébastien Amier, cette descente féminine qui est dominée pour l'instant par la championne du monde en titre, la Slovénie Ilka Štuhek, devant la Suissesse Corinne Sutter, et troisième Lindsey Vonn, l'américaine. La dernière course de sa carrière, elle va peut-être repartir avec une médaille de bronze autour du cou. Ce serait une façon de bien de terminer en beauté sa carrière. 18e place pour l'instant de la française Romane Miradoli, et c'est la tricolore qui est en piste. Sébastien Amier, Tiffany Gauthier, ça va être compliqué, elle est déjà en retard au premier intermédiaire.
Ah oui, ça va être compliqué. On l'a pas vu très à l'aise, hein, sur les entraînements et encore sur l'eau du tracé. Là, il y avait moyen de skier plus engagé. Alors, c'est facile de notre position de dire ça. Mais c'est vrai qu'elle revient de blessure aussi. Elle a connu un début de saison très compliqué. Et voilà, elle voulait s'aligner ici à tout prix sur cette descente des championnats du monde. Forcément, on n'a pas beaucoup de représentantes françaises, on en a seulement deux. Et elle méritait sa place d'être là et de faire au mieux.
Ouais, elle avait fait une très bonne saison l'an passé, une seconde 21 au deuxième intermédiaire. Ça ne fera pas une belle place pour Tiffany Gauthier. Le podium, Štuhek, Sutter et Vonn, 34 ans, la dernière course de sa carrière. Les gros calibres sont passés, à moins d'un miracle. Ça ne bougera pas dans cette descente des championnats du monde de ski alpin.
Merci Morgane, merci Sébastien Amier, à tout à l'heure.
RMC Motors.
Le briefing.
Lucas Vinoy est avec nous. Salut Lucas.
Salut Louis, salut Jean-Luc, bonjour à tous.
Reporter RMC Sport, bientôt reparti pour ton tour du monde.
Ouais.
On profite, ça approche, de ta présence. Les monoplaces se dévoilent, les billets d'avion sont pris, les pilotes sont affûtés. Plus que 5 semaines avant le premier Grand Prix en Australie et plus que 8 jours avant la première semaine d'essai officielle à Barcelone. Dans un instant, on accueille notre invité Fred Vasseur, l'ancien patron de Sauber, aujourd'hui rebaptisé Alfa Romeo Racing. Mais d'abord, en un mot Jean-Luc, c'est une saison qui promet beaucoup, avec pas mal de changements et autant de mystères.
En un mot, tu sais très bien que je ne sais pas faire, mais je vais te le faire en deux. Écoute, oui, effectivement. Alors déjà, si on devait hiérarchiser un petit peu, je pense que la modification aérodynamique qui va donc s'appliquer aux monoplaces et devrait permettre donc des dépassements, on va dire, plus aisés ou moins difficiles, comme on veut, tout le monde la redoute ou tout le monde l'attend avec impatience. Nous, c'est évidemment avec impatience pour voir comment les écuries ont résolu ce problème, puisqu'on sait qu'on va supprimer une partie, malheureusement seulement, de cet empilage aérodynamique qui était totalement grotesque, hein, ça fait des années que je le dis, donc c'est une bonne nouvelle évidemment. D'un autre côté, ben nous Français, naturellement, on a un pilote, Pierre Gasly, qui a intégré l'équipe Red Bull capable de remporter des grands prix en championnat du monde avec Verstappen. Donc Pierre sera confronté à l'étoile montante Jos Verstappen et pas Jos évidemment,
Max.
Excuse-moi, ça tu vois.
S'il était confronté à Jos, ça serait peut-être plus simple.
Parce que moi je l'ai vu rouler le papa. Et puis du côté évidemment de Charles Leclerc qui intègre l'équipe Ferrari. D'ailleurs, les rumeurs et distillées également, j'allais dire abondamment, même par Christian Horner, qui s'est permis de dire, hein, à la place effectivement de Vettel, je me méfierais parce qu'il a beaucoup de talent. Donc voilà, donc beaucoup d'inconnus comme d'habitude, et on attend ses premiers essais avec une impatience non dissimulée.
Et tout de suite, on accueille notre premier invité, le patron de l'écurie Alfa Romeo Racing, ex Sauber. Bonjour Fred Vasseur.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous dans Motors ce dimanche, Fred. D'abord, comment ça va, Fred Vasseur? Quel est votre état d'esprit à quelques jours des premiers essais de la saison? C'est de l'impatience?
Oh bien, c'est toujours un peu comme la rentrée des classes. Hein. Chacun a révisé de son côté là, puis on attend un peu de Barcelone pour voir où on en est. Déjà, c'est un peu le rush pour être pris pour Barcelone, mais je pense que ça, c'est pour tout le monde pareil. Et puis après, on verra là-bas. Même si je pense qu'à Barcelone, au moins pour la première séance de test, tout le monde va énormément cacher son jeu. Mais c'est toujours la voilà, c'est un peu la rentrée des classes et l'ambiance est un peu comme un 1er septembre quoi.
Bon, ça y est, t'as bien rempli ton cartable. Salut Fred, merci
et
beaucoup.
Une éponge toute neuve, une ardoise, là, je suis prêt.
Je fais confiance, t'as même dû affûter les crayons, à mon avis. Écoute, un premier mot, si tu veux bien, pour revenir sur la disparition. C'est pas triste, hein, c'est la vie des écuries, mais du nom de Sauber, Peter Sauber, que tu connais, que tu respectes, évidemment. Bon, le passage à Alfa Romeo est pas moins prestigieux, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, puisqu'on rappelle que c'était les deux premiers vainqueurs du championnat du monde de Formule 1 en 1950 et 51. En un mot, Fred, ou plus si tu veux, comment tu vis ça, cet abandon de Sauber et cette arrivée vraiment tout à fait officielle d'Alfa Romeo? Puis pour toi, c'est quand même génial, hein, de diriger une équipe comme ça.
Je vois ça surtout du bon oeil, hein. D'un côté, on a Peter Sauber, mais qui n'avait laissé que le nom à l'entreprise, hein, parce qu'il était plus présent,
ouais.
Qui restait à nous suivre sur les courses, parce qu'il est attaché à l'entreprise et que je suis attaché à lui. Mais Peter vit également très bien le passage à Alfa Romeo. C'est le premier que j'ai prévenu quand on a pris la décision. Et lui, sa réaction, ça a été plus de penser à l'entreprise. Si c'était bon pour l'entreprise, pour l'équipe et pour le futur de l'entreprise, il était favorable. Donc je pense que ce sentiment, toute l'équipe le vit pleinement. On sait que c'est une opportunité énorme pour nous de reprendre les couleurs d'Alfa Romeo et on n'oubliera jamais Peter Sauber. De toute façon, l'entreprise s'appelle Sauber Motorsport et continuera à porter ce nom-là. Mais faut bien faire le distinguo entre la structure, l'entreprise et le nombre d'équipes de course qui pour moi est plus une vitrine commerciale.
Oui, justement, Fred Vasseur, concrètement, qu'est-ce que ça change que le nom ait changé? Est-ce que ça implique, par exemple, de plus belles ouvertures pour certains sponsors, pour aller chercher de nouveaux partenariats, ou est-ce que c'est purement de la nomenclature?
Non, mais ça renforce clairement le partenariat avec Alfa Romeo. On l'a étendu dans le temps, il se développe. C'est aussi une vitrine peut-être un peu plus large pour attirer de nouveaux sponsors. On va faire pas mal d'annonces dans les 5-6 jours qui viennent là sur de nouveaux partenariats. Donc je pense que le fait qu'Alfa Romeo nous rejoigne et s'affiche un peu plus que ce que ça n'était fait l'année dernière, va renforcer la dynamique autour de l'équipe. Et pour nous, c'est une phase importante. C'est aujourd'hui très très compliqué de faire de l'AF1 quand on est 100% privé et qu'on n'a pas de lien avec un constructeur. Donc voilà, il fallait un moment ou un autre franchir ce pas. Et on le fait en gardant la structure de l'entreprise qui, pour moi, était importante. Donc on a le même actionnariat, le même management. Et on renforce juste le lien commercial qu'on a avec Alfa Romeo.
Alors Fred, je l'évoquais il y a un instant, dans les changements techniques qu'il y a à l'aéro, hein, notamment ce fameux aileron avant, les bargeboards, enfin la définition aérodynamique, alors je vais te demander un secret, que tu te poser une question à laquelle tu ne répondras pas, mais est-ce que vous avez récupéré tout ou partie de la perte aérodynamique supposée de cette nouvelle réglementation? Première question, et deuxième dans la foulée, est-ce que tu penses que les pilotes vont pouvoir se dépasser un peu moins difficilement?
Alors effectivement, à la première, je vais pas répondre.
Merci Fred, ça nous aurait étonné.
Mais disons que je suis très satisfait du travail qui a été accompli.
C'est déjà une
réponse. Quant à la facilité de dépassement, j'en suis pas personnellement hyper convaincu.
D'accord.
Je suis pas persuadé que ça va changer énormément de choses dans la gestion des dépassements. Donc l'impact peut-être c'est qu'on aura un effet DRS plus important avec une aile arrière un peu plus large et que ça devrait du coup faciliter les dépassements grâce au DRS.
Frédéric Vasseur, le patron d'Alfa Romeo Racing, est l'invité de Motors en direct sur RMC et RMC Sport News. Question de Lucas Vinois.
Bonjour Fred, petite question par rapport à Kimi Raikkonen. Est-ce que déjà là, dans l'avant-saison, même si on n'a pas eu encore les premiers essais, ça va arriver très vite, est-ce que déjà il a pu apporter sa pierre à l'édifice et de quelle manière? Lui qui a beaucoup d'expérience, on le rappelle, en F1.
Bah, ça a commencé, je pense, dès les essais de l'année dernière. On a eu l'opportunité de faire les deux jours d'Abu Dhabi avec Kimi. C'était un pas important pour nous parce qu'il a pu nous apporter un peu son feeling et son feedback sur le comportement de la voiture. Donc ça, c'était intéressant. Et puis, oui, forcément, je pense que Kimi, c'est le pilote le plus expérimenté en F1. Et pour nous qui restons une équipe jeune, hein, puisqu'on a restructuré l'entreprise il y a peu de temps, on a embauché beaucoup, on est dans une phase un peu de progression et de développement de l'entreprise, d'avoir un pilote qui soit une référence et un leader, c'est quelque chose de très important. Donc Kimi va nous apporter ou de sa pointe de vitesse, parce qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il avait fait la pole à Monza l'année dernière et qu'il avait gagné la course d'après, mais il va aussi nous apporter son bagage technique qui est reconnu dans notre milieu.
Et puis même si ça a surpris, Fred, on va rappeler quand même Kimi, il avait débuté en F1, je dis pas de bêtises, en 2001, chez Sauber, et si je me rappelle bien aussi, Sauber avait terminé quatrième au classement général du championnat du monde, donc en tant qu'équipe, donc la barre est placée très haut. Une autre question concernant les négos qui sont en cours, et notamment le fameux cost cap, je sais plus si on l'appelle toujours comme ça, mais disons la limitation des budgets, voilà, qu'on est censé imposer à partir de 2021, dans les nouveaux accords dits Concorde, qui par parenthèse, je crois que c'est acté, dureront non pas 5 ans, mais dureront jusqu'en 2030, c'est bien ça?
Pour l'instant, on n'a pas été dans le détail de tous les points, donc non, pour l'instant, c'est toujours en négociation. Alors, c'est deux choses complètement séparées. Il y a d'un côté le Concorde Agreement avec les revenus, puis il y a de l'autre côté le cost cap. Coscap, je pense qu'on s'y dirige parce que même les grosses équipes aujourd'hui ont besoin de réduire un petit peu les coûts de fonctionnement de la F1 et qu'on est en train de trouver un terrain d'accord. Alors ce Coscap touche beaucoup plus les trois grosses équipes ou les quatre grosses équipes que le reste du plateau. Nous on est en dessous du Coscap, donc c'est pas quelque chose qui va nous.
Mais ça va vous rapprocher d'eux? Pardon Fred, ça va vous rapprocher de ces équipes-là en termes de niveau?
Je pense qu'il y a un petit peu d'inertie, hein, de toute façon. Donc, en F1, c'est toujours une histoire d'inertie, mais forcément, qu'ils vont être obligés de réduire un petit peu la voilure et que ça risque de resserrer un petit peu aussi le niveau de performance. Après, il y a un côté positif, c'est que si on arrive à atteindre le cost cap, nous, on est habitué à gérer ce type de budget, peut-être un peu plus que les grosses équipes. Donc oui, je pense que ça pourrait resserrer un petit peu l'écart qu'il y a sur la grille et ça serait peut-être une bonne façon de rendre la F1 sustainable, viable pour tout le monde et deux, d'augmenter un peu le show en resserrant les écarts qu'il y a sur la grille.
Alors on va pas te parler que de ça parce qu'il y a beaucoup plus intéressant, Fred, mais j'ai vu que c'était les écuries qui effectivement devaient sur l'honneur déclarer qu'elles ne dépensaient pas plus, et puis j'ai vu qu'on a exclu naturellement les contrats pilotes, on a exclu le marketing, on a exclu les motorhomes gigantesques, enfin tu as le sentiment quand même que ça peut servir à quelque chose? Je crois qu'on devrait arriver à dans un premier temps 185 millions de dollars, c'est bien ça, par an, et à terme 135 millions de dollars, c'est ça?
Ouais, sans vouloir parler de montant, parce que je le ferai pas, mais
je m'en doutais.
Le fait d'exclure le marketing ou des choses comme ça, je trouve que c'est assez cohérent, parce qu'on a, selon qu'on défende les couleurs d'un constructeur ou pas, on n'a pas forcément les mêmes frais de marketing, et les frais de marketing peuvent aussi être supportés par le constructeur, donc pour pas rentrer dans ces polémiques-là, on a décidé de les exclure du périmètre du COSCAP, et je pense que c'est bien de n'inclure dans ce périmètre que ce qui est directement impactant la performance. Donc pas le marketing, pas le RH.
Et pas les pilotes.
Le pilote, c'est quelque chose qu'on pourrait faire dans un second temps plus tard, mais ça créera d'autres sujets de discussion.
Oui.
Fred Vasseur, peut-être le savez-vous, mais vous êtes un homme craint. Un homme craint par le reste du paddock, pas seulement pour votre sens de la formule, mais pour la qualité de vos voitures. Écoutez ce que disait Sergio Pérez il y a quelques jours. Sauber, donc Alfa Romeo Racing, c'était avant que la marque soit renommée, est l'équipe à surveiller en 2019. Qu'est-ce que ça fait, Fred Vasseur, d'être redouté?
Rien du tout, parce que j'écoute pas et je ne sais pas ce que disent les autres, ce que font les autres, donc... Voilà, après je pense que tout le monde, et ça c'est des formules réponse à une question qui devait être bateau, et personne ne surveille plus Sauber qu'un autre, et on est tous concentrés sur ce qu'on fait, et voilà, donc non, ça je me
oui.
Je porte pas du tout attention.
Alors, on salue la pirouette et le petit tacle glissé à nos questions bateau. Mais quand même, Fred Vasseur, si on creuse, il n'y a pas que Sergio Pérez qui dit ça. Chez McLaren, on entend également que Sauber Alfa Romeo Racing est une équipe à surveiller attentivement. Les résultats de la fin de saison dernière plaident également dans ce sens. Est-ce que vous vous dites qu'il y a un coup à jouer cette saison et à aller chercher peut-être une cinquième, une sixième place au classement constructeur? Pourquoi pas mieux?
Ce qui est sûr, c'est que l'année dernière, c'était très très serré. Enfin, il y avait le top 3 qui était loin devant, et après, il y avait un groupe de 5-6 équipes derrière qui était très serré. Nous, sur la dernière partie de saison, sur le dernier tiers, je crois qu'on est 5e. Donc voilà, ce que j'aimerais, c'est qu'on arrive à réattaquer la saison 2019, à peu près là où on l'a fini. Ce qui a été une de nos forces l'année dernière, ça a été notre capacité à développer la voiture pendant la saison. Donc voilà, ce qu'il faudrait, c'est qu'on arrive à partir sur des bases saines et solides à Barcelone. Après, je dirais que tout est ouvert et que la saison est longue, mais bon, voilà, qu'on se concentre déjà sur nous. Je pense que j'ai assez de travail avec les miens pour pas regarder ce que font les autres. Moi,
deux questions en une, Fred, comme toujours avec moi, tu sais bien. La première, est-il vrai que le règlement technique, donc futur, devrait être établi avant la fin juin 2019? L'échéance, est-ce qu'elle est précise? Est-ce qu'elle est claire? Est-ce qu'elle est, on va dire, adoptée par tout le monde? Et la deuxième, on sait qu'il y a un certain nombre de pièces standardisées, entre guillemets, qui pourraient être commercialisées. On sait que les liens, évidemment, entre Alfa Romeo et Ferrari sont étroits. Est-ce que ça va dans le bon sens, ça, le fait d'avoir des pièces un petit peu standardisées qui coûteraient donc moins cher pour les équipes?
Alors, il y a effectivement deux questions complètement différentes. La première, c'est la date de parution du règlement. Je pense que pour tout le monde, c'est un point très important parce que c'est aussi un driver pour les coûts. C'est-à-dire que plus on va se décider tard, plus tout sera cher. Et on doit impérativement mettre en place les règlements de 2021 au plus tôt. Et on avait fixé la date du 30 juin qui me paraît cohérente et qu'on ne devrait pas dépasser. Après, il y a confusion sur le mot, c'est-à-dire qu'il y a des pièces qui peuvent être standards, ça veut dire que c'est des pièces qui seraient communes à tout le monde.
Oui, c'est ça.
Comme on a déjà le CU aujourd'hui, hein, qui est fourni par McLaren. Donc ça, on pourrait imaginer avoir des pièces standards. C'est pas la même chose que de partager des pièces avec Ferrari, comme on fait aujourd'hui pour le moteur et la boîte notamment.
Donc, du côté des pièces standards, pour en rester là-dessus, ça te paraît une bonne idée finalement de normaliser pour un certain nombre d'équipes, voire toutes les équipes, comme tu l'as dit, comme pour la centrale électronique?
Oui, ça peut être une bonne idée si tant est qu'on le fasse suffisamment tôt et que ça permette un développement des pièces en amont et qu'on n'ait pas de sujet de fiabilité. Donc il faut surtout pas qu'on se retrouve pris par le temps et à décider tout en catastrophe trop tard, quoi. Donc voilà, on essaye d'accélérer un peu le processus là qui va passer vite à mon goût.
Lucas, c'est clair.
Petite question sur Charles. Comment est-ce que tu vois cette saison pour lui, cette première saison au sein de la Scuderia Ferrari, et notamment par rapport à Sébastien Vettel? Est-ce qu'il va pouvoir le concurrencer tout de suite? Et surtout, est-ce que Charles est prêt aussi à rentrer dans le jeu politique de la Scuderia Ferrari? On sait que c'est une écurie particulière et que pour être un très bon pilote là-bas, il ne faut pas justement être bon seulement derrière le volant.
Oui, là aussi, hein, j'ai confiance en Charles. Moi, je pense qu'il n'y aura pas de problème d'adaptation sur la partie pilotage. Il sera tout à fait capable d'afficher le rythme qu'il faut. Donc ça, je m'inquiète pas. Après, sur la partie politique en interne, ce qu'il faut surtout, c'est montrer qu'on va vite. Hein. Après, la politique est beaucoup plus simple. Donc, je pense que c'est à lui de s'affirmer, à montrer aussi qu'il a le niveau et de convaincre tout le monde en interne. Et ça, je pense qu'il a à la fois la vitesse derrière le volant, mais aussi l'intelligence en dehors de la voiture pour que l'équipe le soutienne et le pousse tout au long de la saison. Donc, non, je suis pas inquiet de l'avenir de Charles, du tout.
Un mot, Fred, parce que malheureusement le temps passe vite, surtout quand on te pose des bonnes ou des mauvaises questions. On a beaucoup parlé de Kimi Raikkonen, dont évidemment, quand on est champion du monde, on est forcément un excellent pilote et c'est une évidence pour lui. Et puis je sais qu'il est différent dans le privé de l'image qu'il donne dans le public. Mais parlons d'Antonio Giovinazzi, dont certains disent, y compris ses pairs, et ce qui est toujours le meilleur hommage, qu'il faut faire attention à lui, que c'est vraiment un pilote extrêmement rapide et que les gens pourraient être surpris de sa performance. Est-ce que, évidemment, tu partages cette opinion?
Donc, j'avais raison tout à l'heure, il faut faire attention à tout le monde tout le temps. Hein. C'est bien le principe de la F1. Parce que,
ouais.
Si on n'en voit pas un venir, après on passe pour un guignol quand on ne l'a pas dit avant.
Donc. Voilà.
Donc faut tout dire, comme ça vous êtes couvert.
Voilà, on craint tout le monde, tous les pilotes, toutes les équipes, même la voiture médicale.
Bah oui, surtout quand il y avait Jacques Trentenat au volant, ça pouvait aller vite.
Mais... Non, plus sérieusement, oui, Antonio, il avait fait une saison de F2 ou de GP2, je sais plus comment ça s'appelait à l'époque.
Ouais. GP2 encore.
Quand il partageait l'équipe avec Pierre Gasly, qui avait été exceptionnel. Et puis l'année dernière, il a fait 6 FP1 avec nous. Il a été vraiment bon, parce que la FP1, c'est un exercice qui est pas facile, où on roule peu, on n'a pas le droit de casser la voiture. D'un côté, faut aussi démontrer qu'on a le rythme. Et il avait vraiment brillé face à Marcus et à Charles. Et c'est plutôt de bon augure pour la saison qui vient.
Merci beaucoup Fred Vasseur d'avoir été avec nous dans Motors. À très vite,
merci,
évidemment sur
RMC. Salut, merci Fred.
Bonne journée à vous, bon dimanche. 13h23 merci, sur RMC Sport News. Dans un instant la moto, mais d'abord le ski. C'en est terminé Morgan Mori de la descente d'âme des championnats du monde à Auray en Suède.
Et la Slovène Ilka Štuhec qui conserve le titre, son titre de championne du monde de descente devant la Suissesse Corinne Sutter, médaille d'argent. Et troisième, Lindsey Vonn à 34 ans qui termine sa carrière sur cette course avec une médaille de bronze autour de cou. 20e place pour la première française, Roman Miradoli. Sébastien Mir retiendra la médaille de bronze de Lindsey Vonn. Superbe, au revoir pour l'américaine.
Et oui, gros coup de poker tenté par cette fille-là sur cette saison. Et voilà, de gros adieux ici à Auray. Belle championne, elle est allée la chercher celle-là parce que elle l'avait annoncé, elle voulait la gagner et c'est chose faite pour elle aujourd'hui, mais ça a été plus vite devant avec cette magnifique victoire de Ilka Štuhec.
Demain, le combiné masculin, grosse chance de médaille pour les Français, Alexis Pinturo, Victor Mufajandé.
Merci Morgane, merci Bastoun, bonne journée à vous. Dans un instant, Motors revient en direct sur RMC et RMC Sport News, ne bougez pas.
RMC, 13h-14h, Motors, Louis Amar, Jean Lecroix.
Avec Jean-Luc Roy, avec Lucas Vinoy, 13h27 sur RMC et sur RMC Sport News Motors en direct jusqu'à 14h. Dans un quart d'heure, Benoît Boutron nous rejoindra pour Radio Paddock toutes les infos de la semaine. Mais d'abord la moto.
RMC Motors, le tour de chauffe.
Lucas, de nouveaux essais de la saison ont eu lieu cette semaine en Malaisie à Sepang. Des essais d'avant-saison, donc, hein, parce que les essais de la saison... Ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que ça a donné, Lucas, ces essais en Malaisie?
Eh bien, c'est à 4 Ducati aux 4 premières places. Alors, il faut remettre les choses en perspective. On est sur le tracé de Sepang en Malaisie, où il y a deux très très grandes lignes droites. C'est un circuit très rapide. On sait que le moteur de la Ducati fonctionne très très bien. Donc voilà, ça peut expliquer tout ça. Mais c'est vrai que 4 Ducati aux 4 premières places. Petrucci devant Bagnaia, Miller... Et Dovizioso, les quatre en 3/10. Cinquième, Vinales, la première Yamaha. Vinales qui a montré de belles choses, notamment en rythme de course, qui est plutôt prometteur pour le début de saison qui aura lieu au Qatar. 10e, Rossi, mais qui a concédé avoir fait quelques erreurs sur son tour le plus rapide. Marquez est 11e, mais bon, on sait qu'il est convalescent. Marquez, il a été opéré de l'épaule. Et puis, Pino Frenchy, quand même, puisqu'il y en aura deux cette année en moto GP. Quartararo, 16e, et Zarco, 17e. Zarco qui a du pain sur la planche avec cette nouvelle moto, la KTM, qu'il faut développer, prendre la confiance, essayer de gérer ce train avant. Et puis Quartararo qui découvre tout simplement, lui, la catégorie reine.
Jean-Luc, avant d'interroger Jean-Claude Rivel qui sera avec nous en quelques instants, ton regard sur ces résultats-là?
Écoute, Dovizioso lui-même, donc quatrième temps, a dit qu'il fallait effectivement, comme l'a dit Lucas, remettre ça en perspective. Il faisait très très chaud à Sepang. Donc effectivement, dans ces conditions extrêmes, on peut le dire, eh bien, on le sait, les pneumatiques qui sont la clé, comme toujours en sport mécanique, de la performance, ont fonctionné. Et Lucas l'a dit également, il y a de très grandes lignes droites où on sait que le moteur de la Ducati développe un maximum de cavalerie. On parle même de 300 chevaux maintenant, sans se cacher, dans les paddocks de MotoGP.
C'est considérable. Hein.
300 chevaux sur une carte de crédit, hein, au sol, faut savoir, ça souligne le talent des pilotes. Alors après, derrière, effectivement, Yamaha, qui se cherche encore un peu après une saison 2018 délicate. Honda, nous l'avons dit, handicapé par des pilotes blessés, puisque Jorge Lorenzo, la grosse recrue, le champion du monde, eh bien, ne roule pas, puisqu'il s'est blessé, on le sait, en essai, donc en s'entraînant. Et puis Marquez est en train de se refaire. Donc, c'est pas très significatif, mais moi, je retiens surtout 12 pilotes en à peine 9/10 de seconde. C'est génial, c'est de la moto.
Voilà. Ça fait rêver la Formule 1. Et tout de suite, Jean-Luc, on accueille ton invité, l'ancien pilote moto, un grand habitué de Motors, Jean-Claude Ogrel, est en direct avec nous. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour à tous.
Et merci d'être là. Jean-Luc, c'est à toi.
Oui. Écoute, Jean-Claude, on va pas redire, enfin j'espère que tu es d'accord avec ce que j'ai dit il y a une seconde, sinon je suis mal en deux mots. En tout cas, c'est toujours formidable et on l'évoquait il y a quelques instants si tu nous écoutais à propos de la F1. C'est toujours formidable de retrouver les pilotes et les équipes sur le terrain, on va dire, même si Sepang, c'était un petit peu particulier. L'autre particularité, tiens, de l'avant-saison moto, c'est que les pilotes vont se retrouver au Qatar, bien avant d'ailleurs le début de la saison qui aura lieu au Qatar. Alors qu'est-ce que tu penses de ce découpage, puis également du fait, Jean-Claude, qu'il y a 3 jours de moins d'essais, hein, hivernaux cette saison? Il y en a 6 au lieu de 9, malheureusement.
Oui, mais tout le monde dit qu'il faut réduire les coûts, que effectivement, on a de moins en moins d'essais. Bon, alors moi, je suis toujours ravi dès que les premiers essais commencent, parce que ça veut dire que dans pas longtemps, on va avoir la saison qui va débuter. Alors là, dans le 23, 24, 25, on a l'Ozaï. Le 10 mars, la saison démarre. Je suis très content. Moi, dès que les essais commencent, je suis ravi, parce que je me dis, ça y est, on va bientôt commencer cette saison, et cette saison est extrêmement attirante. Parce que Lorenzo chez Honda, parce que Bagnaia,
deuxième temps,
qui a jamais piloté une moto de cette puissance-là. Il faut quand même savoir qu'il vient d'une moto qui faisait 120 chevaux et qui d'un seul coup passe sur une moto qui en fait 260, 280, voire même 300 certaines fois, et qui est déjà deuxième. C'est vraiment, je suis ravi de cette saison qui arrive.
On revient aux différentes équipes. Bon, Ducati, on vient de l'évoquer, ils ont dominé ces essais. Le troisième jour, hein, on précise également que les meilleurs temps, ce qui est logique d'ailleurs, puisqu'il y a un développement. Tiens, un petit mot, Jean-Claude, peut-être différent, sur l'évolution aérodynamique des motos. Et oui, longtemps, tu l'as connu, évidemment, le carénage, même si on avait vu des selles un petit peu plus pointues, des bulles un petit peu plus rondes. Là, maintenant, on a l'impression qu'on travaille vraiment cet aspect aérodynamique. Et même, on demande aux pilotes de valider l'option aérodynamique, avec notamment les petits ailerons qu'on a un peu rognés d'ailleurs en MotoGP. Qu'est-ce que tu penses de cet aspect aéro, je dirais, du MotoGP ?
Ah ben, en plus, sur ce circuit, hein, quand même, une ligne droite importante, évidemment, ce nouveau carénage qui est magnifique à regarder déjà, je pense que maintenant, effectivement, comme en automobile, l'aérodynamique va avoir de plus en plus d'importance sur la moto, et visiblement, ça commence. On travaille beaucoup là-dessus, ce qui était complètement inconnu il y a ne serait-ce que 5 ans.
Alors les pneumatiques, on l'a dit, surtout dans des températures et par des températures aussi élevées, maintenant évidemment Michelin fournit des produits, il a fallu que les pilotes y viennent, hein, s'y fassent un petit peu, et tu le sais mieux que personne aussi, la performance elle est dans la confiance. Alors je vais passer justement aux pilotes français, avec l'arrivée de Fabio Quartararo, dont on disait tous depuis plusieurs années que vu son gabarit et vu son style de pilotage, il serait plus à l'aise en MotoGP. À lui de le démontrer, c'est plutôt pas mal. Et puis Johan qui fait un pari risqué. Alors ton avis sur les positions des pilotes français, on va pas surtout les juger avec les 16 et 17e temps de ces essais.
Moi je vais vous dire je vais faire très vite, mais je me souviens, alors que j'étais pilote de Grand Prix en 250, un jour on m'a dit tiens, tu vas essayer la 750 de Michel Rougerie. Au Mans, sur le circuit du Mans, je suis passé de ma 250 de Grand Prix où je marquais des points en championnat du monde quand même, donc j'étais pas largué, hein. Je suis monté sur la 750 du regretté Michel Rougerie. Honnêtement, j'avais l'impression que je ne savais plus conduire. Tout changeait, les repères de freinage étaient plus les mêmes, etc. Et là, je vois Quartararo qui, dès le départ, se sent bien sur cette moto. Ça préfigure de quelque chose de vraiment très bien. Moi, j'ai été agréablement surpris de la performance. Bon, 16e, 17e, ça veut pas dire grand-chose.
Non.
Mais il s'est quand même adapté très rapidement, comme Bagnaia, dont on parlait tout à l'heure. D'ailleurs, je suis vraiment surpris de leur performance, parce que passer d'une moto de 120 chevaux à une moto de 250 ou 260 chevaux, c'est quand même pas simple. Et puis alors, Zarco, ben on le sait, il a fait un pari difficile. C'est un homme de challenge, hein, de toute manière. Visiblement, il a visiblement l'intention de faire progresser cette moto et d'être devant. Je lui souhaite vraiment beaucoup de réussite, parce que c'était un challenge très difficile et un pari osé.
13h34 sur RMC Sport News. Jean-Claude Augrel, l'ancien pilote de MotoGP, est l'invité de Motors en direct. Question de Lucas.
Bonjour Jean-Claude, j'ai une question sur l'aéro. J'aimerais bien revenir là-dessus, puisqu'on a eu Dani Pedrosa qui s'est beaucoup exprimé sur ce sujet, notamment l'année dernière. Dani Pedrosa qui a pris sa retraite. D'ailleurs, ça va faire bizarre de ne plus le voir sur la grille du MotoGP. Mais est-ce que ce n'est pas dangereux ? Moi, je voudrais revenir sur le côté sécuritaire. Être déventé sur quatre roues en monoplace ou en voiture, ça peut avoir des conséquences. Vous sortez dans le bac à gravier. Être déventé sur une moto, est-ce que ça ne peut pas avoir des conséquences catastrophiques, quand on sait déjà qu'il y a beaucoup de blessures en moto, puisque les pilotes qui tombent à des vitesses folles et se font souvent très mal, à commencer par Lorenzo ou même Rossi qui s'est blessé plusieurs fois dans les dernières années.
Alors c'est encore, pour l'instant c'est un peu tôt pour dire, mais alors déjà il n'y aura pas la même portance sur une moto que sur une automobile. C'est-à-dire que effectivement une F1 en aspiration, c'est vraiment aspirer. Le mot est vraiment bien choisi. En moto, l'aspiration joue beaucoup moins bien. Elle joue effectivement pour un problème de vitesse de pointe. Mais maintenant, est-ce que pour l'instant, on peut dire que ça va déventer une moto avec les ailerons et tous ces appendices que l'on est en train de rajouter? Je sais pas. Sincèrement, pour l'instant, j'ai du mal à répondre à cette question. J'ai l'impression que ça a moins d'influence sur une moto que sur une voiture.
Je vais te poser, Jean-Claude, une question extrêmement délicate. Je vais prononcer le nom que tout le monde connaît, Valentino Rossi. Alors, on a quand même le sentiment, j'ai le sentiment que Valentino, avec tout le talent qu'on lui connaît, toute la hargne en course où il est capable de remonter
météorique,
je me mouille, ça y est, j'y vais. Il est un tout petit ton en dessous de Maverick Vinales, on le voit dans ses essais. Pas beaucoup, hein, mais il est un tout petit peu. L'an dernier, il y a un pilote Yamaha qui a remporté un Grand Prix, c'était Vinales. Rossi critiquait sa machine. Alors, il avait certainement raison. Hein. On a donné le choix au pilote, d'ailleurs, entre deux moteurs, hein, je crois, les premiers essais qu'on a disputés cette saison. Enfin, quel est ton sentiment sur Valentino? Est-ce qu'il est capable de décrocher le 10e titre de champion du monde? Il aura 40 ans dans 6 jours. C'est incroyable. Non, mais attends, avec tout le respect qu'on lui doit, mais je pose une question sacrilège. Allez, Jean-Claude, on est entre nous. Personne ne nous écoute.
Alors, ça tombe bien. Alors, donc, je vais pouvoir répondre tout à fait confortablement. Je pensais à ça hier, d'ailleurs. Il faut quand même savoir qu'il y a 20 ans d'écart entre Fabio Quartararo et Valentino Rossi.
Ça pourrait être son fils, hein, carrément. Ça pourrait être son fils.
Ça pourrait être son fils, c'est énorme. Mais, alors, honnêtement, Valentino Rossi n'a jamais été un pilote d'essai, de test et de machin. Donc, le 10e temps de Valentino Rossi aujourd'hui, c'est pas grave. Valentino Rossi, c'est un pilote de course, c'est pas un pilote d'essai. Donc, ça veut pas dire grand chose. Et puis pour l'instant, l'année dernière, ok, Vinales a gagné un Grand Prix, mais enfin Rossi a mené des Grands Prix.
C'est vrai.
De Tontin, dont tout le monde se souvient, où il est tombé à 3 tours de l'arrivée sous la pression de Marquez, alors qu'il avait fait une course absolument fabuleuse. Sincèrement, c'est pas Vinales le danger pour Rossi, je pense pas. Je pense qu'il est, il est en capacité, c'est vraiment un super pilote. Après, bien évidemment, la nouvelle génération, ça va vite, ça attaque, ça prend des risques que ne prendrait peut-être plus Rossi, mais Rossi, c'est quand même un guerrier. Je pense que...
Et il est malin, le bourg, il est malin.
Ah, et en plus, il est malin, sur un Grand Prix, il est malin. Aujourd'hui, le gros problème pour Rossi, c'est Marquez. C'est pas les autres, pour l'instant, c'est ce que je pense.
Ouais. Non, mais tu as raison.
Mais est-ce que le problème justement pour Valentino Rossi, on parlait à quel point la moto aujourd'hui est serrée, et est-ce que lui, cette prise de risque justement qu'il ne va plus chercher parce qu'il a 40 ans, parce que il a atteint entre guillemets l'âge de la raison, est-ce que c'est pas ça qui va faire qu'il ne gagnera peut-être plus de grands prix ou qu'il aura de plus en plus de mal à monter sur les podiums?
Sur une saison complète, il aura beaucoup de mal à nouveau à être champion du monde. Par contre, sur des grands prix, bien sûr qu'il va y arriver. Honnêtement, il a surtout pas l'âge de raison. Aussi, la preuve, il tombe quand il est en tête parce que Marquez est derrière lui et qu'il grignote des dixièmes de seconde. Il a absolument pas l'âge de raison. Et alors là, je suis bien placé pour en parler parce que moi, à mon grand âge, je continue à faire des courses de moto, même en 125, parce que ça m'amuse. Donc, l'âge de raison, je connais pas. Je prends autant de risques. Je suis aussi agressif qu'un gamin de 15 ans quand je suis sur une moto. Et Rossi, c'est pareil. La preuve, il tombe en essai, il tombe en course, il est très agressif. Non, le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans la moto, il y a un type qui s'appelle Marquez, qui a réinventé une façon de piloter, qui a réinventé des choses. Il est en caoutchouc, en plus, il se fait jamais mal. Aujourd'hui, vous avez des Espagnols, Lorenzo, Pedrosa, etc., qui se cassent. Marquez, c'est vraiment très rare qu'il se casse. Il tombe, il remonte, il tombe 3-4 fois par Grand Prix, et il gagne. Aujourd'hui, Rossi, l'ennemi, c'est ça. Mais l'agressivité de Rossi, alors là je compte dessus, ça se voit rien que dans les conférences de presse qu'il a.
Ben là il est malin, là il est plus fort que tout le monde, là c'est clair. Alors justement, tu nous as fait la transition formidable avec Marquez, qui est l'homme fort, on l'a dit. Bon, là il est un petit peu en retrait parce qu'il est blessé, enfin il est en convalescence, on va dire, voilà. Et il a eu 2 opérations de l'épaule, hein, finalement, et ça prend beaucoup plus de temps que prévu. Alors ma question là aussi, Jean-Claude, est-ce que Marquez, et tu viens de répondre en partie, est-ce qu'il a quelque chose de plus que les autres, en plus avec une machine parfaitement à sa main, j'allais dire? Et puis on va le savoir, hein, parce qu'il va avoir affaire à un certain Jorge Lorenzo, et j'imagine qu'ils ne passeront pas leurs vacances ensemble, ces deux-là.
Ça c'est clair, et ça c'est vraiment intéressant. Parce qu'honnêtement, moi, pour aller sur des grands prix régulièrement tous les ans, Lorenzo, c'est un pilote d'une propreté, d'une efficacité
le plus admiré par les anciens pilotes, hein, dont toi, à cause du style.
Honnêtement, je regarde un Grand Prix de Jorge Lorenzo sur le bord de la piste. Pendant 20 tours, il passe au millimètre près au même endroit. C'est un métronome, c'est magnifique, et ça va très vite. Alors, et c'est très propre, ça me fait un peu penser la première fois que j'ai vu une course avec Jim Clark, je parle de ça, les moins de 50 ans peuvent pas connaître, mais j'avais l'impression qu'il se traînait, et quand on regardait les chronos, c'est lui le plus vite, parce que c'était propre. Lorenzo, c'est ça. Marquez, c'est pas ça. Lord Marquez, c'est l'attaque, c'est tout. Ouais. Honnêtement, je pense que Marquez a quelque chose de plus, pour répondre à ta question, Jean-Luc, Marquez a quelque chose de plus. Aujourd'hui, il a amené le pilotage à un niveau qui, pour l'instant, est connu de lui seul.
Merci beaucoup Jean-Claude Ogrel d'avoir été avec nous.
Génial, salut Jean-Claude.
Avec plaisir comme d'habitude.
Et à très bientôt dans Motors, le premier Grand Prix de la saison en moto. Ça sera le week-end du 10 mars et ça sera
deux semaines avant la F1.
Au Qatar, deux semaines avant la F1. Ça sent bon, ça y est, la saison 2019 reprend. 13h41 sur RMC, sur RMC Sport News. Petit détour par la Belgique, par Liège. Quart de finale de Fed Cup entre la Belgique et la France. Eric Salio, il manque un point aux Françaises pour se qualifier en demi. Salut Eric.
Salut Louis, salut à tous. Effectivement, il manque un point et l'équipe de France compte sur Caroline Garcia qui a été confortée par Julien Beneteau. Il n'y a pas eu de changement de joueuse. C'est bien le match numéro 1 tant attendu entre Caroline Garcia et Elise Mertens. Ça a débuté depuis 4 minutes. Il y a un jeu zéro pour l'équipe de France, mais c'est la Belge qui est au service.
Merci Eric, à tout à l'heure. 13h42 sur RMC Sport News. Motors revient tout de suite avec Radio Paddock.
RMC, 13h-14h, Motors, Louis Amar, Jean Lecroix.
13h45 sur RMC Sport News Motors en direct. Merci d'être avec nous. On est ensemble jusqu'à 14h. On retrouvera ensuite Christophe Cessieux pour l'intégral sport dont le programme est très chargé avec notamment Angleterre-France dans le tournoi destination à 16h et 5 matchs de Ligue 1 dans l'après-midi dont ceux de Monaco et de Lille. Mais tout de suite, Radio Paddock.
RMC Motors.
World Champion! Oh my God!
Radio Paddock.
Jean-Luc Roy et Luc Avinois sont toujours avec nous et Benoît Boutron nous a rejoint. Salut Benoît.
Salut messieurs.
Salut Benoît.
Salut Benoît.
Et on commence avec la F1.
La F1 et cette idée qui vient de Liberty Media, le propriétaire de la Formule 1, de limiter les budgets de F1. C'est dans l'air du temps. On en parle régulièrement dans Radio Paddock.
Et ça a été confirmé tout à l'heure, par Fred Vasseur, qui a dit que
évidemment,
ça allait bien arriver.
Hein. Et c'est assez marrant parce qu'on va pouvoir en reparler. On va réexpliquer l'idée. Donc, ce serait de limiter donc les budgets des équipes, notamment en matière de développement. Ça serait déjà 185 millions en 2021, 160 millions en 2022 et 135 millions en 2023. Mais ce qui est assez marrant, c'est que cette idée est poussée par les écuries qui sont limitées en termes de recherche et de développement. Forcément,
évidemment.
C'est pas
étonnant.
Mercedes qui va demander ce type de décision pour limiter les budgets, pour pas pour limiter justement la progression des formules, des écuries de Formule 1. C'est As par exemple qui propose cette idée, qui trouve que c'est très bien avec Liberty Media et également Alfa Romeo Racing. C'est pour limiter les écarts de performance évidemment entre les monoplaces de Formule 1.
Là entre Liberty et As, on a un axe américain.
Ah oui, c'est sûr.
C'est clair. C'est dans l'air du temps depuis très longtemps. Ça n'a jamais pu être appliqué en Formule 1 pour les raisons que l'on connaît, parce qu'effectivement les trois gros à l'heure actuelle, on le sait. J'ai même du mal à les classer parce que il y a tout un tas de lignes de budget qui n'apparaissent pas. Par exemple, les centaines d'ingénieurs qui travaillent sur la récupération d'énergie électrique, en l'occurrence, et la régurgitation. Je déteste ce mot, mais je l'utilise à dessein, pour dire qu'on rend l'énergie sur la piste. Eh bien, c'est là-dessus qu'on pêche, par exemple, chez Renault et chez Honda. Hein, ça n'est pas humiliant pour les ingénieurs qui, je le dis à chaque fois, savent toujours faire d'excellents moteurs. Et si la Formule 1 était toujours effectivement un concours de vrais motoristes et vrais moteurs thermiques, je suis désolé de le dire, eh bien, Honda et Renault seraient parfaitement dans le coup. Donc, ceci posé, si on compte les millions d'heures et le travail en soufflerie qu'on va essayer de réduire également dans le cadre de ce nouveau règlement Concorde, ce que Fred Vasseur nous a confirmé tout à l'heure, eh bien, c'est vrai que là, on va économiser beaucoup d'argent en recherche qui ne sert à rien, j'ose le redire une nouvelle fois. Ben oui, parce que quand on voit les monoplaces avec cet empilage d'ailerons ridicule sur l'avant, c'est ça qu'on va essayer de réduire hein, pour l'année 2019, et que dès qu'un pilote tape, l'aileron est un peu de travers, il perd et il fait les mêmes temps. Pourquoi ? Parce qu'il roule à 80% de ses possibilités et de celles de la voiture pour ménager les pneumatiques et pour ménager la consommation. Donc oui, à une limitation des budgets, si ça s'assortit d'un règlement technique qui va dans le même sens et qui est intelligent.
Ça peut niveler les valeurs à ton avis ?
Niveler, non. Les meilleurs resteront les meilleurs. Voilà. C'est ce qu'on dit toujours des pilotes, hein, en disant que selon les...
peut-être retrouver un peu d'influence sur leur machine.
Absolument. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, bah, le pilote, bien, on le voit avec Hamilton, hein, évidemment, qui pour moi, on parlait de Marquez tout à l'heure avec Jean-Claude Ogrel, Hamilton a quelque chose de plus. Je crois que personne peut dire le contraire aujourd'hui. C'est une évidence absolue dans le cadre qui est le sien. Alors là aussi, mais lui, aimerait qu'on retrouve des monoplaces beaucoup plus vives, beaucoup plus délicates à emmener sur des circuits, j'ose le dire, un peu plus challenging en anglais, un peu plus dangereux. Donc la part du pilote serait plus importante. Donc encore une fois, les meilleurs pilotes se retrouvent comme par hasard dans les meilleures écuries.
Oui.
C'est un peu comme dans tous les sports.
Oui, ouais, voilà. Toujours en F1, on va avoir un énorme show de présentation à Melbourne. J'espère que Lucas Vinoy sera en Australie assez tôt dans cette semaine.
Lucas,
déguisé en kangourou.
Il va se régaler. Non mais alors, pour le coup,
je vais y penser d'ailleurs.
Mais oui,
je vais arriver dans le paddock.
C'est un bon défi. C'est un bon défi, ça.
C'est un bon défi, c'est vrai.
C'est vrai.
On peut y aller. Les images, on veut des docs et on les mettra sur le site de FC Sport.
Alors, on critique souvent Liberty Media. À mon avis, c'est une bonne idée, effectivement, de faire un énorme show pour lancer la saison dans les rues de Melbourne. Ça sera le mercredi 13 mars. En fait, c'est 4 jours avant le Grand Prix. L'idée, c'est de réunir les 20 pilotes, les 10 patrons d'écurie, de les mettre à Federation Square, donc c'est un endroit connu à Melbourne, et de leur permettre de rencontrer gratuitement les fans. Il y aura d'anciens pilotes de Formule 1, des stars du paddock qui seront là également. Et il y aura des concerts organisés. Donc c'est une vraie journée dédiée à la Formule 1, une belle soirée, ouverte au public. Ça, c'est une bonne idée pour faire parler du sport et permettre aux fans de côtoyer leurs idoles.
Écoute, ça me paraît, juste un mot avant que Lucas évidemment en rajoute une petite louche, je pense une très bonne idée de le corréler au Grand Prix, parce que ça a été le cas à Marseille, hein, également, on peut le rappeler, l'an dernier, pour le retour du Grand Prix de France, donc au calendrier.
À Londres aussi, avant.
À Londres, exactement. Quand c'est un petit peu abstrait comme ça, quand c'est posé, je peux parler de Miami, puisque j'y étais quand ça s'est déroulé, bah c'est une fête foraine, mais les gens font pas forcément le lien, ils viennent là parce qu'il y a du bruit, il y a de la musique, comme tu le disais, il y a de l'ambiance, mais c'est très bien quand les pilotes sont là, les équipes sont là, et qu'on que le Grand Prix va se dérouler après, voilà mon sentiment.
En plus, là pour le coup, toutes les équipes sont là très en amont en Australie à cause du décalage horaire, donc
oui, puis il faut acheminer toutes les marchandises, il faut faire venir les monoplaces,
les journalistes,
les journalistes aussi, oui c'est ça, parce qu'il n'y a pas encore la téléportation. Mais non, c'est une très bonne idée, ça fonctionne souvent en plus très bien. Les gens sont ravis, en plus là les fans de Formule 1 ont été sevrés pendant des mois et des mois, donc ça va fonctionner et voilà, c'est un marqueur important pour débuter cette saison 2019 qui s'annonce en plus extrêmement serrée. Oui.
Par parenthèse, ce sont des connaisseurs, les Australiens, même si ça paraît lointain, absolument, vraiment passionnés dans le Albert Park. Hein. Je voulais dire une chose, c'est que quand les moteurs de 2014, j'y reviens, je vais en mettre une petite louche, sont apparus et qu'on n'entendait rien, immédiatement les Australiens ont fait le rapport avec l'année précédente. Quand on pense qu'aujourd'hui en Formule 1, on en est à essayer de retrouver du bruit artificiellement sur des moteurs de Formule 1, ça, moi, ça me fait très très mal. Et les Australiens l'avaient décelé tout de suite. Voilà, juste un mot.
Et c'est vrai que l'ambiance en Australie est toujours dingue pour le premier Grand Prix de la saison. Là, Federation Square, en l'occurrence, tu vas voir, Lucas, c'est une espèce de place de la Concorde au cœur de Melbourne. Et il y aura à coup sûr beaucoup de monde et tout sera fait, puisque là, pour le coup, Liberty soigne aussi énormément les apparences quand il s'agit de belles images.
C'est bien.
Et donc, il y aura sans doute beaucoup de monde pour acclamer.
Et ça casse un peu cette image de sport d'élite aussi. Tu vois, un joueur de foot, tu peux le rencontrer à la sortie du stade. Un pilote de Formule 1, c'est peut-être plus compliqué. C'est vraiment une bonne idée pour permettre aux fans de...
L'accès est tellement filtré maintenant, on le sait bien, dans les paddocks de Formule 1 et même autour qu'effectivement,
pour nous parfois.
Donc malheureusement, c'est un des problèmes récurrents de la Formule 1 et il date pas d'aujourd'hui. Hein. Je peux te dire, on en parlait déjà avec Jacques Villeneuve quand il était arrivé en Formule 1. Là, bon, c'est au siècle dernier, je vous le concède, mais c'était en 96-97 et lui faisait le parallèle avec l'IndyCar où en IndyCar, eh bien le public a accès aux pilotes. Il y a des séances de signature et c'était vachement sympa. Il déplorait que la Formule 1 déjà en 96-97 se coupe de son public.
Ouais. On parle d'un de vos pilotes préféré, Fernando Alonso.
Ah bah oui.
Pas de F1 la saison prochaine, mais il ne ferme pas la porte à un retour en 2020. Il a accordé une interview au Corriere della Sera hier, donc le média italien. Il a dit « J'ai dit au revoir à la F1, mais je n'ai pas de programme pour 2020. Gagner un troisième titre serait ma plus grande joie. » Et en fait, il a fait comprendre que s'il revenait en Formule 1 en 2020, ce serait pour une top team, pour jouer le titre, évidemment. Et il veut aussi battre un record.
Comme par hasard au Corriere della Sera, c'est
oui, Ferrari. Et d'ailleurs, je vais te lire ses propos sur Ferrari, tu vois, c'est assez marrant. Il vise aussi le record du nombre de grands prix disputés en Formule 1.
Ah oui.
Vous savez qu'il est plus très loin de Rubens Barrichello.
Vous savez combien, Barrichello, non?
Bah, 322, je dirais.
326.
Oh, il est bon, ah, ouais. Alonso
est à 316, donc après.
Oui, il suffit d'une saison.
C'est réglé. Bah, donc c'est une bonne idée pour lui, effectivement. Il a parlé de ses erreurs passées. Il a dit, j'ai commis des erreurs, comme le jour où j'ai quitté McLaren en 2007. Je pensais que Honda serait plus compétitif. Quant à Ferrari, nos bilans sont similaires depuis que nous nous sommes quittés. Ni eux, ni moi n'avons réussi à gagner un titre.
Oui, c'est vrai. Il y a deux manières de le dire, mais c'est pas mal. Il aurait, en effet, aimé retourner chez Ferrari. Le problème de Fernando Alonso, c'est que c'est un excellent pilote derrière le volant, mais c'est aussi un pilote qui est très politique.
Clivant, on dirait.
Et souvent, quand il a quitté ses écuries, il les a pas quittés en bon terme. Donc, pour revenir, c'est un petit peu compliqué.
Bah, alors, c'est un champion en un mot. Hein. Tu sais, les champions, en général, voilà, ils veulent tout pour eux. Ils veulent le meilleur ingénieur, le meilleur moteur.
Et puis, comme je suis plus à ça près, je vais ajouter un petit peu d'eau à votre moulin de conjectures, puisqu'il y a eu un mouvement dans l'ombre qui n'intéresse personne à part les journalistes, mais qui, là, se révèle potentiellement important. Pourtant, Ferrari, qui a changé de patron, Maurizio Arrivabene,
Mattia Binotto,
est parti, a changé également de directrice de la communication.
Bien sûr.
Et la directrice de la communication de Ferrari maintenant est une dame qui s'appelle Silvia Hofer Frangipane.
Exactement.
Qui a accompagné Fernando Alonso pendant près d'une décennie en Formule 1 et qui l'a suivi absolument partout. C'est même elle qui est allée avec lui aux 500 miles d'Indianapolis, dépêchée par McLaren pour l'épauler quand il avait décidé de participer à cette course. Donc, évidemment, à l'aune de ces déclarations, il faut peut-être évaluer différemment ce
choix. Bah oui, je sais bien, mais bon, la passion est là quand même. Non, mais tu as raison de le souligner parce que c'est très important. Bien, sait-on jamais. Mais je pense qu'effectivement, Fernando, qui est un malin aussi, évidemment, hein, qui est matois dans le bon sens du terme, il n'a pas écarté non plus, bon, une petite incursion dans les sables du désert, du Dakar, on l'a dit.
Il place ses pions, de toute façon,
il place ses pions. Il dit, bah, finalement,
mais oui,
moi, j'ai toujours envie de rouler.
Bien sûr.
Bah, écoute, il est à peine plus jeune que Valentino Rossi, dont nous parlions à l'instant. Ouais. Il a une belle deuxième ou troisième carrière qui s'ouvre devant lui.
Non, mais pour le Sporeto, il faut qu'il roule et qu'il soit visible, parce que c'est une des stars, évidemment,
Il a mangé plus que son pain noir chez McLaren. C'est vraiment, c'était le tunnel. Oui, ouais. Mais ils avaient pas de phare, hein, chez McLaren.
Ouais, ça c'est sûr.
Justement, encore une info, Benoît.
Ouais, je voulais vous parler de MotoGP. Vous en avez parlé des tests à Sepang. On va juste rappeler ce qu'il faut retenir. Ducati a été au top avec le record du circuit pour Danilo Petrucci. Il y a eu 3 Ducati en tête. Vignales, lui, a été 4e, mais il a fait 79 tours, ce qui est énorme pour une journée d'essai. Donc c'est très bien pour lui. Jorge Lorenzo est absent. L'a dit, fracture du scaphoïde. Ça c'est très embêtant pour lui, parce qu'il a dit qu'il démarrait la saison, mais pas à 100%.
Eh oui.
Donc c'est déjà une indication avec Honda qui a donc ses deux pilotes peu en convalescence.
Mais ils s'enlèvent déjà de la pression.
Oui,
et le vrai problème, c'est qu'on n'est pas certain qu'il puisse rouler lors des essais préliminaires, justement à Losail, au Qatar, à la fin du mois de février, la 22, 23, 24, ouais. Parce que le scaphoïde, c'est un petit os très vascularisé, donc même si on est un grand champion,
c'est entre le poignet et la main, c'est ça.
Exactement, ouais. C'est le petit os sur lequel pivote la main, ouais. Et donc à moto, il y a une pression énorme, et il faut tirer sur le guidon, donc c'est un os qu'il faut ménager, et plutôt que de traîner ça toute la saison, je pense que les médecins vont lui conseiller peut-être de faire l'impasse. Mais du coup, il n'aura pas essayé la Honda vraiment dans sa version 2019.
13h56, nouveau détour par la Belgique. Belgique-France, quart de finale de Fed Cup. Caroline Garcia est opposée à Elise Mertens. Eric Salio.
Oui, Louis, je vous écoutais religieusement. C'est Frangipane, c'est ça?
Oui, exactement.
Oh là là, tout de suite, j'ai eu très faim. 4-1 pour Caroline Garcia, Louis, dans ce match numéro 3. Ah oui, ça donne faim, ouais. Et en tout cas, elle est affamée, Caroline Garcia, sur le court. Ça fait 4-1 après un petit quart d'heure de jeu. Ses frappes, sont beaucoup plus fluides qu'hier.
Merci Eric Salio.
Faut le redire contre moi.
Ah, Liège. Merci messieurs. Merci Jean-Luc. Merci Benoît. Merci Lucas. Dans un instant, l'intégral sport avec Christophe Cessieux. Le programme est magnifique. Nous, on se retrouve à 16h sur RMC. À tout à l'heure même.
RMC Football. Samedi 4 mai à 15h au stade de la Mosson à Montpellier, c'est la finale de la Coupe de France féminine. Le Paris Saint-Germain affronte le FC Fleury 91 pour un match au sommet. Qui décrochera le titre? Réservez vos places sur billetterie.fff.fr. PSG Fleury. Finale de la Coupe de France féminine le 4 mai à Montpellier avec RMC.